Aussi aujourd'hui, au nom du Seigneur, nous vous souhaitons à tous les bienvenus cordialement. Nous avons des salutations du monde entier que nous voulons aussi rapidement vous transmettre. Nous avons de la visite de l'Angola. Peut-être que notre frère peut se lever. Où est le frère de l'Angola? Avons-nous un frère parmi nous? Ici, il y a une de Cosmopras de l'Angola. Il y a un frère de Cosmopras de l'Angola. Est-il ici? Non. Alors sûrement que cela s'est dépassé. C'était peut-être le frère de la dernière fois qui m'a appelé de l'Angola et qui nous salue tous et nous souhaite de tout son cœur les riches bénédictions de Dieu. Tous sont liés avec nous. Ensuite, nous avons des salutations du frère John de Bucarest, du frère Lotika de Johannesburg, des frères et sœurs Olviti de la Finlande. Ensuite, nous avons des salutations de notre sœur Stey, qui est très éprouvée et qui nous salue tous. Ensuite, nous avons les salutations de Jörg Schegelis. Oui, on pourrait continuer à lire. Le frère Etienne Genton salue. Le frère David de Palermo salue. Le frère Hilton de Cape Town salue. Le frère Motika de Johannesburg. Et le frère Daniel de Cape Town. Oui, le frère Niagi de Nairobi, le frère Léonard de Bruxelles, salut. J'espère que j'ai oublié personne dans tous de ces emails qui ont été écrits. Nous remercions Dieu le Seigneur de tout notre cœur. Pour la grâce et le privilège, oui, le frère Joseph de Kinshasa et tous les autres frères de Mbujimayi et des différentes villes vous saluent tous de tout leur cœur. Ils sont liés avec nous dans le Seigneur et nous aussi nous saluons de notre part de tout notre cœur, dans le précieux nom de notre Seigneur. Alors que les frères et sœurs, tout à l'heure, encore en langue française, ont chanté, cette pensée m'est venue. Nous sommes réellement rassemblés ici de manière internationale. Et si je ne me trompe pas, il y a 16 différentes langues parmi nous qui sont représentées. 10 de ces 16 sont traduites et sont à écouter dans le monde entier, du monde entier. Et nous sommes aussi reconnaissants à Dieu, très, très reconnaissants à Dieu pour cela, de ce qu'il nous a accordé ces possibilités. De propager de cette manière son dernier message biblique et de dire à tous, ça, c'est le dernier appel que Dieu adresse à l'humanité. Et nous disons simplement que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit et à dire aux églises. Je ne voudrais pas manquer de particulièrement saluer nos bien-aimés frères et sœurs de l'Amérique du Sud, du Chili et particulièrement du Venezuela. Ici, vous deux, levez-vous encore une fois, que Dieu vous bénisse. Beaucoup qui vous bénissent richement. qui soit avec vous. Nous sommes unis dans ton amour. Merci. Ensuite, nous avons sûrement, oui, là, il y a notre bien-aimé frère. Lève-toi, s'il te plaît. Oui. Et nous le disons en langue espagnole.
Bienvenido aquí, hermano mio.
Oui. Sois la bienvenue parmi nous, bien-aimé frère.
Et también, hermana. Hermano heißt Bruder, hermana heißt Schwester.
Hermano, ça veut dire frère, et hermana, ça veut dire sœur en espagnol. Que Dieu vous bénisse parmi nous. Il vous a déjà béni et il continuera à le faire. En relation avec cela, nous saluons aussi particulièrement tous au Pérou, à Lima et particulièrement et à l'Ascension, au Paraguay. Il y a toujours plus de frères qui se sentent liés avec nous dans toute l'Amérique du Sud et l'Amérique latine et souhaitent entendre nos réunions des premiers week-ends et les recevoir. Et j'ai la question, est-ce que le frère Michael et Darwin pourraient encore se lever? Sont-ils ici? Si oui, ou que Dieu vous bénisse très particulièrement, tous nous savons qui sont ce gentil couple. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse votre fils, votre enfant. Nous avons de la visite aussi de notre bien-aimé frère Jörg. Je ne sais pas si il veut qu'on cite son nom de famille. Es-tu parmi nous? Non. Oui, il est là, mais nous sommes aussi reconnaissants à Dieu de ce que nous devons en toutes choses avoir de la sagesse. Nous pouvons avoir en toutes choses de la sagesse et savoir ce que nous avons à faire pour que tous se sentent à la maison et se sentent bien. Bien, mes frères et sœurs, nous avons le grand privilège dans ce jour d'écouter la parole du Seigneur, claire comme le cristal qui descend du trône, la recevoir révélée, pas des opinions et des interprétations d'hommes, pas de transmettre des opinions et des interprétations d'hommes, mais de transmettre la parole du Seigneur, de laquelle dans le prophète Ésaïe, nous l'avons lu, qu'elle ne revient pas sans effet à Dieu, seulement après avoir produit l'effet de ce que le Seigneur a promis. Et déjà, il fut insisté et mis l'importance sur la parole. Ensuite, le psaume 33 m'est venu dans le cœur. Psaume 33, je lis ici seulement le verset 4, 6 et 9. Psaume 33, verset 4, 6 et 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel.
In all seinem Tun ist treu.
Pardon, au verset 4. Car la parole d'Éternel est droite, véritable, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Et nous pouvons nous examiner et aussi le dire avec les hommes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Aucune promesse que Dieu avait donné dans sa parole sont restés sans accomplir et resteront sans accomplir. Tout ce que Dieu a dit s'est accompli. Sa parole ne revient jamais vite, ne revient jamais sans effet. Le verset 6 maintenant, le psaume 33, toujours le verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Représentez-vous cela devant les yeux. Dieu le Seigneur parle. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Il parle que la terre produise et la terre a produit. Chaque parole qu'il prononce s'accomplissait au prochain moment. Au prochain instant. Chaque parole qu'il a prononcée est devenue une réalité. Toute la création est une réalité divine. Le verset 9. Car il dit et la chose arrive. Il leur donne et elle existe. Bien-aimés frères et sœurs, quelle conviction, quelle certitude nous avons dans la parole de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen. Et ce qu'il promet, il accomplit. Nous avons eu hier à parler de ce que le peuple d'Israël s'est révolté malgré les promesses, malgré les bénédictions, malgré les soins de Dieu. Depuis le commencement, il y a eu deux sortes de groupes. Les uns croyaient et les autres rejetaient. Et Dieu pouvait seulement être avec, pouvait atteindre le but avec ceux qui le croyaient et lui obéissaient de tout leur cœur. Et ainsi, se sont mis du côté de Dieu et ont témoigné la véracité de Dieu et ont accepté la véracité de Dieu dans son œuvre, dans ce qu'il dit, et ont laissé toutes leurs propres œuvres derrière eux, ont abandonné leurs propres œuvres. Dans toute une prédication de frère Branham, avec le titre La semence de discorde, la semence de discorde, la semence de révolte, de discorde, le grand homme de Dieu de tous les âges a exposé que déjà depuis le commencement, il y a eu deux sortes de semences. Les uns croyaient, acceptaient, les autres avaient de la résistance et rejetaient. Ici, à la page 6, dans cette prédication, le frère Branham disait, les hommes de l'âge qui expérimentaient l'accomplissement de la parole promise sont la semence de Dieu dans l'âge précis, dans l'âge, selon ce que Jésus ici disait. Ils sont les enfants du royaume de Dieu. C'est vrai. Ensuite, cela continue. La révélation du Saint-Esprit qui est accordée à ses enfants est la semence du royaume dans l'âge. Nous savons que Dieu a donné des promesses et ensuite les a accomplies. Et cela a continué dans le prochain. Et cela continue dans la prochaine citation. L'adversaire Satan a semé l'ivraie qui est la semence de discorde, la semence de rébellion, de révolte. C'est lui qui est coupable. C'est lui, Satan, qui est responsable de cette semence. C'est lui qui a semé sa semence depuis le commencement. Alors que Dieu avait sur cette terre ensemencer sa première semence d'homme pour ensuite les récolter. Ensuite, Adam a mangé de la connaissance du bien et du mal. Ensuite, il y a quelque chose de particulier qui vient. Le péché ne sera pas imputé à un vrai croyant. Car, ici, il est dit, si Dieu voulait imputer le péché, qui pourrait être sauvé? Ensuite, nous continuons ici dans la citation. Avez-vous su cela? Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il ne peut pas pécher. Le péché ne lui est pas imputé. David disait, heureux les hommes à qui le Seigneur a pardonné le péché. Si vous êtes en Christ, vous n'avez aucun désir, vous n'avez plus le désir de pécher. Vous n'avez pas le désir. Ensuite, on pourrait continuer encore à lire la prédication, encore de ces deux paragraphes. Nous avons remarqué que le diable, en tant que le semeur de la première semence, a été désigné comme le premier semeur de la semence de discorde. Et ça, nous le savons selon Genèse. C'est là-bas que nous le trouvons, la semence de discorde. Ici, dans Matthieu 13, Jésus, toujours de nouveau, rend responsable, déclare responsable tout déviement de la parole, rend le diable responsable de tout déviement des Écritures. Tout ce qui est enseigné et cru, qui est en discorde, qui est contre les Saintes Écritures et qui n'est pas conforme avec les Saintes Écritures. Chaque interprétation est la semence de discorde, est la semence du diable, est la semence de révolte. Chaque interprétation. Dieu va que confirmer sa parole. Ensuite, les trois phrases. Semence de contradiction. La semence que Dieu dans le jardin d'Éden a semée a produit Abel. Abel. Mais quand Satan a semé sa semence de discorde, c'est Caïn qui a été récolté. L'une a produit un juste et l'autre a produit un injuste. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons aujourd'hui continuer avec l'observation de la parole de Dieu. Et nous voulons insister et dire tel que nous écoutons la parole et que nous la recevons. C'est ainsi que Dieu voit notre réaction en face de lui. Et c'est ainsi qu'il agira aussi avec nous et nous bénira. J'ai vu que frère Branham a souvent parlé de ce modèle du pectoral d'Aaron avec la lumière là. Il a parlé 138 fois du pectoral de la lumière et il a comparé cela avec l'enseignement des apôtres. Et je le répète encore aujourd'hui à l'avance. Apocalypse 12 et Actes des Apôtres 2 vont ensemble. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 42, il est écrit « Et ils demeuraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion et dans la et dans les prières, et dans la brisure du pain, et dans Apocalypse, et ici, je me réfère à la parole de Dieu, bien sûr, et à l'exposé de frère Branham. Et je place cela en face de ce qui s'est passé alors que l'Union de l'Europe a été annoncée. Ici, dans Apocalypse chapitre 12, nous lisons à partir du verset 1, un grand signe parut dans le ciel, une femme. Aujourd'hui, on dirait sûrement, donc il y a un, en allemand, il y a un mot assez vieux pour dire femme. Bon, en français, il y a femme, c'est seulement le femme. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Nous avons compris, alors que le Vatican avait mis ce, avait confirmé les 12 étoiles dans le drapeau de l'Europe. Ils ont dit que Marie serait cette femme-là, d'Apocalypse 12, couronnée de 12 étoiles. Et que toute l'Europe est consacrée au cœur de Marie. Nous l'avons tous appris. Mais les Saintes Écritures ne parlent pas ici de l'Europe, s'il vous plaît, dans Apocalypse 12, et ne parlent pas non plus de Marie. Dans Apocalypse 12, il n'est pas non plus parlé d'un drapeau avec 12 étoiles, dans Apocalypse 12, mais il est parlé d'une couronne avec laquelle l'Église est couronnée, qui est décrite ici, qui est montrée ici en tant que femme. Pourquoi? Parce que depuis le commencement, Dieu a toujours utilisé des images et des symboles et des paraboles pour parler avec nous. Et celui qui continue un peu à lire peut constater pourquoi est-ce que ce verset biblique, où est-ce que ce verset biblique a sa place. C'est-à-dire que le fils mâle sera enlevé, qui avec une verge de fer gouvernera tous les peuples, et quand cela aura lieu, alors le verset 6 s'accomplira. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Et c'est à cette époque-là, quand cela aura lieu, que selon le verset 7, il y aura une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et ils ne veulent pas que, n'est-ce pas, le fils mâle soit enlevé. Alors la guerre a lieu dans l'air pendant l'enlèvement de ce fils, de ceux qui ont été privilégiés d'être auprès du Seigneur pour toujours, d'abord au festin des noces et ensuite dans le millénium avec lui régner et gouverner. Pourquoi est-ce que je dis cela maintenant? Simplement pour montrer que l'adversaire, depuis le commencement, a utilisé des versets bibliques et les a interprétés et en a tordu le sens pour sa propre perdition, les a utilisés. Mais Dieu nous a envoyé un message prophétique où vraiment tout, et encore une fois, tout est placé à sa place et ordonné dans la Bible. Et ensuite, frère Branham, 138 fois, parle de ce que c'est important que tout ce qui est cru, tout ce qui est enseigné, tout ce qui est fait soit comparable et conforme à l'enseignement des 12 apôtres. Car c'est de cet enseignement-là que l'Église du Nouveau Testament est couronnée. Je voudrais lire deux versets pour, en ce qui concerne, pour un peu éclaircir ce sujet du pectoral, du pectoral. Dans Exode, le chapitre 28, Exode, chapitre 28, et nous commençons ici, directement plus loin, après, avec le Nouveau Testament. Dans Exode, chapitre 28, à partir du verset 15. Tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé. Tu le feras du même travail que les fautes. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et croix moisie et de fin lin retors.
Sollst du es herstellen? Und jetzt kommt.
Et maintenant arrive.
Vermittels.
Au verset 16. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan.
Den Willen Gottes. Darum ging.
C'est de ça qu'il s'agissait.
Nicht nur, dass ein hoher Priester.
C'est de ça qu'il s'agissait. Pas seulement que comme ça un sacrificateur est un pectoral, c'est pas. En Israël, il m'a offert un pectoral avec 12 pierres précieuses avec, qui représentent les 12, avec les 12 tribus et leurs noms. Peut-être parce que nous prêchons le message divin avec véracité. Et maintenant encore une fois la fin de ce verset. Pour que le sacrificateur sonde la volonté de Dieu. Au verset 15 en allemand. Pour que le sacrificateur, à la fin du verset 15, sonde la volonté de Dieu. C'est ainsi que il devait être jugé parmi le peuple de Dieu. C'était le pectoral du jugement. Ensuite, le verset 29 dans Exode, le chapitre 28, verset 29. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël. Exode 28, verset
29.
Gravé sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Cet homme de Dieu n'avait pas le droit d'entrer dans le sanctuaire sans le pectoral. Il devait rentrer dans le sanctuaire avec le pectoral du jugement. Et la même chose est semblable pour nous. Si nous venons devant la chair pour prêcher la parole de Dieu, s'il vous plaît, nous devons venir avec l'enseignement des 12 apôtres. Nous devons venir avec ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Au verset 30, tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Qu'est-ce que c'était? On pourrait lire beaucoup d'autres versets. Il y a des traductions qui utilisent les deux mots lumière et droit, tur et lumière et raison. Lumière et raison. À chaque fois que quelqu'un venait dans le sanctuaire avec un songe, avec une révélation, avec un ordre, avec un songe, quoi que ce soit, si cela venait de Dieu, la lumière, de manière surnaturelle, faisait refléter la lumière de ces 12 pierres. Et tous savaient, il n'y avait pas de discussion, il n'y avait plus de discussion. Si la lumière brillait, alors cela venait de Dieu. Si cela restait obscur, cela n'était pas de Dieu. Personne n'avait besoin de discuter avec le sacrificateur, hein, et de se disputer avec lui. Ça ne dépendait pas de lui. Oui, mais de lui demander, mais est-ce que vraiment tu as bien mis le pectoral? Est-ce que tu l'as bien employé? Non, non, non. Ce n'était pas Aaron qui devait employer le pectoral. C'était Dieu qui devait utiliser le pectoral. C'était Dieu qui avait jugé. C'était Dieu qui donnait raison et qui répondait par la lumière. Et c'est de ça qu'il s'agissait et c'est de ça qu'il s'agit encore aujourd'hui. Dans Esdras, le deuxième chapitre, nous lisons. Esdras, le deuxième chapitre. Ici, au verset 63, Exode chapitre 2, verset 63. Esdras chapitre 2, verset 63. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Thummim.
Orakels käme. Und wenn man die letzten Zeilen und Verse
in
2. Chronik 36 liest,
de Chronique, chapitre 36, les deux dernières phrases. Comment est-ce que Dieu a parlé par le prophète Jérémie dans 2 Chroniques, chapitre 36, et comment est-ce que tout s'est accompli? Et ensuite, dans Esdras, le premier chapitre, le premier verset, ici il est écrit.
Im ersten Regierungsjahre des Königs Kores.
La première année de Cyrus, donc il lit dans Esdras chapitre 1, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Esdras chapitre 1, verset 1.
In Erfüllung geht. Gott hat
Dieu avait parlé, et quand le temps fut arrivé, Dieu a confirmé sa parole. Et ensuite, il fut donné l'ordre, au verset 3 d'Esdras, chapitre 1, qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui. Mais c'était pas tout. Maintenant, l'ordre fut donné et qu'il monta à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem, qui habite à Jérusalem. On peut lire tout le chapitre pour voir la manière avec laquelle Dieu veillait là-dessus et a fait en sorte que le temple soit rebâti sur le même fondement original du temple et soit ainsi bâti là-dessus et livré à sa destination. Tous ceux qui appartenaient au peuple de Dieu, partout où ils se trouvaient, ils devaient monter à Jérusalem avec leur Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs, ceux qui aujourd'hui appartiennent au peuple de Dieu doivent se mettre en chemin et revenir à la prédication et à l'enseignement qui est sorti de Jérusalem. Car c'est ainsi que c'est écrit dans Ésaïe, le chapitre 2, que la parole du Seigneur sortira de la montagne de Sion et l'enseignement de Jérusalem. Elle est sortie de là et dans le déroulement de ces 2000 années, on s'est dévié de cet enseignement qui est sorti de Jérusalem. Mais à la fin du temps de la grâce, il faut que la fin devienne conforme et semblable au commencement. L'Église doit être rebâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, là où Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Ce n'est pas possible autrement d'inaugurer ou bien de, d'achever, il faut que nous nous soumettons à la volonté de Dieu primitif. C'est peut-être la raison qu'il est écrit tel que nous l'avons lu, que c'est par cela, c'est par la lumière et comme il est écrit ici, que la volonté de Dieu fut apportée au peuple de Dieu. Soyez sincères. Pour quelle raison nous lisons les Saintes Écritures? Pourquoi nous lisons toujours? Pour pouvoir comme ça savoir mieux les choses que les autres? Ou bien pouvoir étonner les autres? Non. Nous lisons les Écritures avec le désir ardent de dire, Seigneur, parle avec moi. Fais-moi entrer dans ta parole, dans ton plan, dans ton dessein. C'est ainsi que nous voyons ce qui s'est répété et ce que nous avons entendu toujours de nouveau, que chaque parole qui est prêchée est tout de suite révélée aux hommes. On n'a pas besoin de donner, on n'a plus besoin de donner des cours particuliers à qui que ce soit. Et si nous sommes de la semence de Dieu, alors s'accomplit ce que notre Seigneur aussi a dit dans Jean 18. Celui qui est de Dieu, il écoute les paroles de Dieu. Alors s'accomplit ce que Jean l'apôtre a écrit, nous sommes de Dieu et tous ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Mais le pectoral doit être présent. Ça ne doit pas être une prétention. Mais Dieu, de manière surnaturelle, doit confirmer la prédication et toute la parole de Dieu est inclus dans la prédication. Revenons à la semence de discorde. Personne ne peut changer les choses. Les uns sont déterminés à cela et les autres pour autre chose. Et chaque semence produit toujours seulement selon son espèce. Lisons deux versets que notre Seigneur et Sauveur, qui concernent notre Seigneur et Sauveur, d'abord qu'il l'effectuait et avait son ministère ici sur cette terre, et qu'il lui a été, ils ont fait que le contredire et encore une fois le contredire. Pas une unique fois, les scribes et pharisiens ont donné raison au Seigneur. Ils ont fait que toujours trouver quelque chose à critiquer, à pouvoir critiquer, et ils savaient toujours mieux les choses que lui. N'est-ce pas? Dans Luc, chapitre 2, Luc chapitre 2, ici nous avons la prophétie de l'homme de Dieu, Simon,
der den Mund auftat und im Namen des Herrn von
Vers 20 à partir du verset 25
die wunderbaren Worte,
les paroles merveilleuses qu'il a prononcées.
In Vers 26,
au verset 26, il est écrit,
vom Heiligen Geist,
il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Luc 2, verset 26. Et cela continue et continue encore. Bien-aimés frères et sœurs, chaque vraie révélation nous est accordée par Dieu, par le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Jusqu'à ces expressions au verset 31, 32,
33.
Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Le verset 30. Le verset 31 maintenant. Au verset 32 maintenant. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. un contenu puissant, important, du verset biblique, particulièrement du prophète Ésaïe. Ensuite arrive le verset
34.
Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Représentons-nous devant les yeux. Et je suis touché. Ça, vous pouvez le comprendre. 400 ans. Pendant 400 ans, le peuple de Dieu ont attendu le Messie. Ont attendu la rédemption qui avait été promis, qui était attendue. Le salut qui devait atteindre tous les peuples. Et ensuite, le Seigneur vint chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Les scribes pharisiens l'ont contrarié, l'ont contredit continuellement. C'était une contradiction l'une après l'autre. Ils ont toujours trouvé quelque chose pour pouvoir le contredire. Mais c'était différent avec les apôtres que le Seigneur avait pris de côté avec lui, qui le suivait. Ces paroles étaient précieuses pour eux. Chaque parole était précieuse pour eux. Pierre, c'était tellement précieux que Pierre a dit, Seigneur, où irions-nous? Toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle. Les uns ont accepté la parole, les autres l'ont rejetée. Il est encore écrit, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Bien-aimés frères et sœurs, revenons à notre temps. Il y a aussi de semences. Dans notre temps, les uns font que chercher toujours seulement quelque chose pour à critiquer et à contredire. Et les autres sondent les Écritures et remarquent que cela est exact. Comme dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Ils sondent les Écritures continuellement, tous les jours. Et ils savaient que cela est vrai. Cela est en accord, cela est exact. Cela est selon les Écritures. La prédication est conforme avec les Écritures. Et ils louaient la parole de Dieu et louaient Dieu. La même chose, nous l'avons aussi fait. Depuis le commencement, d'août 1955, alors que je fus témoin oculaire, témoin direct de ce que Dieu a fait dans notre temps et de ce que Dieu fait, j'avais que ce désir depuis lors. Je voulais savoir qu'est-ce que cet homme de Dieu croit et qu'est-ce qu'il enseigne. Je voyais que Dieu était avec lui et que Dieu lui révèle des choses. Et lui montre des choses que lui, il ne pouvait pas savoir. Un homme qui ne connaissait même pas l'allemand, il a pu dire comme ça à chacun ce qu'ils ont, qui est-ce qu'ils sont, et comment est-ce qu'ils s'appellent et d'où ils viennent. Bien mes frères et sœurs, et là il y a eu aussi la semence de contradiction, de discorde. Il y a eu même des frères pentecôtistes qui ont voulu comme ça faire des reproches à frère Branham. Ils ont dit, on ne peut même pas répéter leur vocabulaire. C'était une douleur pour moi depuis le premier jour. Mais si aujourd'hui je regarde en arrière, alors je peux donner raison à Dieu. C'est que sur le même champ, aussi dans la même église, deux sortes de semences peuvent exister. Dans toutes les églises et les églises libres, il y a aussi les deux semences. Et c'est seulement la semence divine qui prêtera l'oreille à ce que l'Esprit dit à l'Église et recevra de tout son cœur. Tous les autres vont faire que contredire et rejeter. Si Dieu vous a accordé cette grâce, vous, de ne pas contredire, mais d'accepter et de dire oui à la parole de Dieu, nous comprenons que c'est une grâce. Nous avons compris, nous avons formé cette nouvelle phrase, le message biblique de la fin des temps, avec contenant tout ce que Dieu a dit. Bien-aimés frères et sœurs, si cela t'a été accordé par le Seigneur notre Dieu, de ne pas contredire sa parole, de ne pas la rejeter et résister, mais de tout ton cœur, d'accepter la donc toute la parole. Alors je peux te dire, en vertu de l'autorité divine, que tu appartiens aux élus de Dieu. Sinon, tu ne pourrais pas croire comme le dit les Écritures. Tous les autres contredisent. Et nous ne contredirons, nous ne refusons pas, nous ne rejetons pas. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce qu'il parle avec nous. Mais allons dans ce résumé d'Hébreux chapitre 12. Et ici, cela, d'une manière particulière, nous est représenté devant les yeux ce que notre Seigneur, pendant son ministère, ce qui est arrivé à notre Seigneur pendant son ministère. Et si il ne pouvait pas dire à Nathanaël, avant que Philippe t'a appelé, moi, je t'ai vu sous le figuier. S'il ne pouvait pas dire à Pierre, ton nom est Simon, Képhas, et le nom de ton père est Jonas. S'il ne pouvait pas dire à la femme au puits, tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et tous les autres versets. Alors les scribes pharisiens n'auraient jamais eu cette opinion-là de dire, ce soupçon-là de dire qu'il a un démon et que ce qu'il dit n'est pas vrai. Non, Dieu conduit toutes les choses ainsi pour qu'une décision soit prise. Une décision soit prise. Et nous avons eu la grâce de prendre la décision que Dieu a prise pour nous. Et c'est seulement à cause de ça que nous pouvions nous décider pour ce qu'il a décidé pour nous et déterminé pour nous dans ce temps. Et nous revenons à Hébreux chapitre 12. À cause du contexte, nous devons lire les deux, les premiers versets. Hébreux chapitre 12, premier verset. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ce sont des paroles importantes que nous recevons de tout notre cœur. Le verset 2. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange du prix de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprise l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Maintenant arrive le verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition. Opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Notre Seigneur, autrefois, à cause du prix de la joie qui lui était réservé, c'est-à-dire ce prix de la joie consistait à ce que tous les fils et les filles de Dieu, en vertu de l'œuvre accomplie de la rédemption, pour toujours, soient auprès de Dieu, seront auprès de Dieu. Il savait que s'il donne sa vie en expiation, alors nous aurons la paix avec Dieu. Nous trouverons la paix avec Dieu et par ses blessures, nous serons guéris. Ici, notre Seigneur est décrit en tant que celui qui a souffert l'ignominie, qui a dû supporter l'opposition et toutes les critiques. Il a supporté tout. Et ensuite, il est écrit pour que vous ne vous lassiez point et l'âme découragée. La fin du verset 3. Ces derniers temps, sûrement que plusieurs frères ont remarqué que je suis parfois plein de tristesse. Bon, je n'ai pas de tristesse personnelle, j'ai qu'une seule douleur. Elle est liée toujours à la chose suivante. Moi aussi, je veux présenter à Christ une vierge chaste, une épouse. Je veux conduire au Seigneur une épouse prête. Je veux que l'ordre soit rétabli dans l'Église et que tous les ministères, tous les dons et tous les devoirs trouvent leur place dans l'harmonie les uns avec les autres et que tout soit ordonné de manière divine. Et que le bon plaisir de Dieu puisse se reposer sur nous tous. Du temps. Donc, en ce moment, actuellement, ce n'est pas encore ainsi. Et cela est une douleur pour moi. Que aussi, Frère Branham, les citations de Frère Branham et ce qu'il a dit sont interprétées de leur propre chef. Chacun interprète de son propre chef et en tord le sens pour sa propre perdition. Et c'est-à-dire que Dieu nous a accordé cette grâce. Nous voyons en cela la grâce que Dieu nous a faite de considérer toutes choses au travers des Écritures pour pouvoir bien comprendre ce que l'homme de Dieu a dit pour que nous puissions bien comprendre ce qu'il nous est dit par le message biblique. Plus d'interprétation, plus d'ajouter et de retrancher. Et tel que Frère Branham l'a dit en insistant, c'était il y a cinq choses qu'il a dit en insistant. Et on n'a fait que redonner seulement trois. La première citation, c'est de ne rien ôter de son contexte. La deuxième, c'est de ne rien interpréter. Et la troisième chose, c'est de laisser tout là où c'est dit dans le contexte dans lequel ça a été dit. Et cette grâce, Dieu nous l'a accordée. C'est un don gratuit de notre Dieu, direct. Je voudrais lire deux, trois versets bibliques de l'Ancien Testament pour servir, aider tous les frères dans le ministère, dans le monde entier et les aider dans la prédication de la parole de Dieu. Ce que des prophètes de l'Ancien Testament ont dit a été dans le Nouveau Testament ordonné par les apôtres. Chaque verset prophétique a été placé dans son contexte dans le Nouveau Testament. Pas un seul est resté comme ça, sans contexte, a été pris comme ça, employé par les apôtres, sans contexte. Non, même la comparaison de Joël, chapitre 2, verset 3, et Actes des apôtres, chapitre 2, verset 22, où l'apôtre utilise une parole dans le Nouveau Testament en comparaison à l'Ancien Testament. Il utilise cette parole. L'Ancien Testament, ici, parle du jour terrible et redoutable du Seigneur qui viendra. Et Pierre ajoute le mot au, et remplace le mot terrible par glorieux. Remplace le mot terrible par glorieux. Et ensuite, réellement, alors cela devient réellement glorieux. Alors Paul, cinq fois, montre où est-ce que le mot glorieux a sa place, c'est-à-dire au jour du Christ, au jour du retour de Jésus-Christ en relation avec l'Église épouse et son enlèvement. Mais la deuxième partie reste le jour terrible qui sera introduit après l'enlèvement. Après l'enlèvement, ce sera le jour terrible. Bien, mes frères et sœurs, si nous lisons le Nouveau Testament avec attention et que nous sommes sous la conduite du Saint-Esprit et que nous suivons la conduite du Saint-Esprit dans les Écritures, alors c'est seulement la louange et l'adoration qui inondent notre cœur. Et nous remercions notre Dieu. Pensons à Ésaïe 61. L'Esprit de Dieu du Seigneur se repose sur moi pour annoncer aux prisonniers la délivrance et à ceux qui sont liés aux captifs la délivrance. Un jour agréable à l'Éternel et le jour de la vengeance. Dans Luc 4, notre Seigneur s'arrête au milieu du verset et lit seulement juste qu'au temps de la grâce, mais du jour de la vengeance, il ne le lit pas. Il ferme le rouleau au milieu du verset et dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vos yeux. Représentez-vous cela. S'il vous plaît, ne vous représentez pas cela, mais simplement pour insister là-dessus. Si le Seigneur avait continué à lire, imaginez-vous, concernant le jour de la vengeance, il n'aurait pas pu dire après, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Mais car le jour de la vengeance était encore 2000 années plus loin dans le futur. Bien-aimés frères et sœurs, oh, cette parole est une parole parfaite de Dieu, de notre Dieu. Et les hommes de Dieu, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, ont été conduits par le Saint-Esprit. C'est pour cette raison que cela me réjouit à chaque fois. À chaque fois, je peux même parfois me réjouir réellement, visiblement. Cela me réjouit quand je pense à ce que dans le Nouveau Testament, 845 fois des citations de l'Ancien Testament sont écrites. 845 fois, ils ont utilisé l'Ancien Testament. C'est merveilleux. Oh, Dieu a veillé sur sa parole, a veillé sur les prophètes qui ont annoncé ces choses à l'avance, a veillé sur les apôtres qui ont prouvé l'accomplissement de la parole prophétique pour nous la transmettre et qui nous l'ont transmis. Le même Saint-Esprit, le même Esprit de Dieu était dans l'Ancien et était aussi à l'œuvre dans le Nouveau Testament. Le même Esprit de Dieu est aujourd'hui encore à l'œuvre. Je voudrais encore lire les versets de l'Évangile de Jean pour nous montrer la différence entre l'opposition, la contradiction, le rejet, la résistance, la rébellion, la révolte, et la différence entre ceux qui acceptent, qui reçoivent, entre cette grâce que Dieu nous a faite. La semence de Dieu se diffère de l'autre semence. Jean, le chapitre 2, ici nous lisons à partir du verset 12. Pardon, 1 Jean. La première épître, pas l'évangile, mais 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2. Je vous écris, vous, petits enfants, car en son nom, vos péchés sont pardonnés. Dites Amen.
Amen.
Nos péchés nous ont été pardonnés par le sang de l'agneau. Et à cause de son nom, il nous a pardonnés. Car en son nom, le pardon des péchés devait être prêché à tous les peuples. C'est ainsi que le pardon a été prêché et nous avons reçu la foi de la prédication et nous remercions Dieu pour cela. Verset 13, 1 Jean 2, verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Qui était le malin? Le malin est celui qui a semé l'autre semence alors que les gens dormaient. Matthieu 13. Et il est écrit ici que vous avez vaincu le malin. Au verset, donc il continue, je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Et encore une fois, le verset 14, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin. À quelle parole pensons-nous maintenant? Apocalypse 12. Ils ont vaincu le malin. Ils ont vaincu par la parole de Dieu. Et par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons été déterminés à vaincre tel que lui, notre Seigneur, il a vaincu. Et il était la parole qui est devenue chair. Et nous sommes dans ce temps la révélation, la manifestation de la parole que Dieu nous a accordé, oui, nous a promis. Et maintenant, il y a encore le verset 17. De manière particulière, le verset 17, et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Pas seulement que la parole de Dieu demeure éternellement, comme c'est écrit dans Ésaïe 40 et dans 1 Pierre chapitre 1, mais aussi tous ceux qui ici, tel que c'est écrit ici, font la volonté de Dieu. Nous aussi, nous demeurons éternellement. Pourquoi? Parce que nous nous avons accepté la parole de Dieu. Le monde passe et sa convoitise aussi. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous avons lu que le pectoral du jugement pour consulter la volonté de Dieu avait été donné. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous a été donnée? C'est pour, par elle, reconnaître, connaître la volonté de Dieu, chercher et trouver la volonté de Dieu dans les Écritures. Maintenant, encore quelque chose de très particulier du chapitre 2, le verset 20 et 21.
Doch ihr habt die Salbung vom Heiligen empfangen
versets 20 et 21. 1 Jean chapitre 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Pourquoi ? Parce que vous avez tous de la connaissance. Pourquoi ? Parce que c'est l'onction de la part de celui qui est saint qui nous enseigne. Au verset 21, c'est pour cette raison que nous avons tous de la connaissance. Au verset 21, je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais c'est parce que vous la connaissez. Il m'en arrive. Et parce qu'aucun, avez-vous compris? Avez-vous déjà dit Amen? Confirmez cela, plus confirmez cela avec un Amen. Et parce que vous connaissez la vérité. Mais ce n'est pas tout de connaître la vérité. Et en même temps de savoir qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Le mensonge, depuis le commencement, reste mensonge. D'ordre, blasphémé, falsifié, c'est le poison du diable, le poison du serpent, dans toute interprétation de la parole. Et ensuite, j'ajoute encore le verset 27, d'abord peut-être le verset 24, 1 Jean chapitre 2, verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et nous lisons à cela Jean 17, pour encore l'apporter. Jean 17, réjouissez-vous avec moi. Réjouissez-vous dans le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, de ce que Dieu nous a accordé ce privilège particulier de ne pas contredire, de ne pas s'opposer, de ne pas se révolter, de ne pas rejeter, mais d'accepter, pardon, de croire, de dire oui et de le recevoir révélé. Jean 17, verset 3.
Besteht aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott,
la vie éternelle consiste, la vie éternelle, donc Jean 17, verset 3.
Jesus Christus.
Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui, que tu as envoyé, Jésus-Christ. Un seul Dieu, un Dieu unique, s'est révélé en nous dans son Fils, seul engendré de lui. Et c'est lui seul qui pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que je peux vous dire combien rejettent cette parole? Les théologues, ils rejettent chaque expression de notre Seigneur, ça n'a pas d'importance partout où vous pourriez lire. Ils ont toujours leur argument. Ils sourient peut-être encore. Ils se sentent bien, n'est-ce pas, eux, majestueusement élevés. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour chaque citation, parce que nous nous retrouvons dans la parole de Dieu de nouveau. Nous nous retrouvons de nouveau parmi ceux qui, de tout leur cœur, peuvent croire comme l'a dit les Écritures. Encore le verset 27 de 1 Jean. De 1 Jean.
Und was euch betrifft,
1 Jean chapitre 2 verset
27.
Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Pas seulement la parole en tant que semence demeure en nous, mais l'onction aussi demeure en nous. Les deux. Et ensuite cela continue. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Non,
wie seine Salbung euch
Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Bien, mes frères et sœurs, résumons. Nous vivons à la fin du temps de la grâce. Ça, nous l'avons compris. Ça aussi, d'autres, en partie, l'ont constaté. Mais la grâce d'être attentif sans dans un seul point s'opposer. Je le dis devant Dieu le Seigneur. Je n'ai jamais... Il n'y a pas un seul verset que j'aurais mal compris ou bien une citation que j'aurais mal compris. Je n'ai jamais interprété. Cela était en moi déjà depuis mon enfance. Alors que j'avais 13 ans, 14 ans, notre maison était une maison de prédicateurs. Et les frères venaient toujours se rassembler à la maison. Je pense encore comme aujourd'hui. Il y a un frère qui dirait, Otto, comment est-ce que tu comprends ce verset? Et Robert, comment est-ce que tu comprends ce verset? Et Auguste, qu'est-ce que tu as compris? Et tous, chacun disait ce qu'il disait. Et moi, je me suis retiré dans la pièce à côté et j'ai ouvert les versets bibliques sur lesquels ils étaient en train d'avoir des opinions différentes. Et j'ai prié et j'ai lu déjà à 13 ans et 12 ans et 14 ans. Je n'ai pas accepté l'une de ces différentes opinions. Je ne sais pas, ça c'est Dieu qui me l'a accordé déjà depuis le commencement. Mais résumons. Mais tout l'honneur appartient au Seigneur qui a déterminé notre vie et qui, avant même la fondation du monde, nous a élus à être auprès de lui pour toujours. Et c'est pour cette raison que nous avons reçu la vie éternelle. Et nous n'avons pas eu besoin de temps de réflexion quand il nous a rappelés. Nous pouvions de tout notre cœur croire. Et ça, c'est le plus grand don que Dieu, le plus grand cadeau que Dieu pouvait nous accorder, car ainsi dit notre Seigneur dans Jean 8, je crois au verset 42, « Si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. » Et alors au verset 24, « Vous mourrez dans vos péchés. » Dans votre incrédulité, dans votre désobéissance, dans votre transgression, dans vos contradictions et vos oppositions, vous mourrez. Mais si vous croyez que je le suis, alors vous vivrez. Et nous croyons que le Seigneur, que c'est le Seigneur, qu'il est le Seigneur qui autrefois avait envoyé des prophètes et utiliser des prophètes et la bouche des prophètes et la bouche des apôtres pour parler avec nous. Et après 2000 années, il a envoyé son serviteur et prophète, le père William Branham, qu'il avait promis, un ministère qu'il avait promis. Il a envoyé et tout ce que Dieu avait dit à l'avance et avait promis dans la Bible a été révélé. Et nous avons la grâce de le croire. Vous pouvez dire amen à cela. Maintenant, encore une question. Est-ce que nous allons aujourd'hui avoir un baptême? Un service de baptême? Est-ce qu'il y a des frères et des sœurs qui se sont décidés à être baptisés bibliquement? Alors, levez-vous s'il vous plaît maintenant. Avons-nous quelques-uns qui veulent se laisser baptiser? Nous avons ici notre bien-aimée sœur. Que Dieu te bénisse. Nous avons là-bas un frère et ici un frère. Ça n'a pas d'importance. Philippe a baptisé qu'une seule personne, il y avait ça peut être 3 personnes, ça peut être aussi 129 personnes que j'ai baptisées un dimanche matin au sud de Lent, à Matras, 129 personnes, sans considérer le nombre. Cela à ta place. Répentez-vous et que chacun se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si ce n'est que le frère Schmitt dise que les frères et sœurs attendent jusqu'à la prochaine fois, mais je pense que nous nous prenons encore ces petits moments, ces petites minutes qui nous restent encore, et nous irons au bassin dehors. Bien, mes frères et sœurs, gardez la parole de Dieu dans vos cœurs. Pensez à cela. Le Urim Thummim, la lumière et le droit ont été donnés pour prendre pour que la décision de Dieu soit prise, à laquelle aucun homme avait une influence. C'était Dieu lui seul qui laissait luire cette lumière de manière surnaturelle. Qu'est-ce que Paul a dit? Dieu a laissé luire la lumière dans nos cœurs. De la gloire de Dieu sur la face du Christ, notre Seigneur. C'est ainsi que c'est écrit dans 2 Corinthiens, le chapitre 4. Dieu nous a visités, nous a fait grâce, il nous a accordé sa parole. Il a accordé la révélation et nous pouvons, dans le lieu très saint, écouter ses paroles. Je termine en disant que seulement ceux qui sont nés de Dieu écoutent, entendent la voix du Seigneur et n'ont pas de résistance, d'opposition. Et ils ne peuvent même pas supporter quand des autres s'opposent à la parole de Dieu et contredisent et critiquent. Celui qui lit dans Actes des Apôtres constatera que Paul avait des réunions dans un appartement et qu'il y a eu une partie de ceux qui étaient présents qui ont résisté dans Actes des Apôtres chapitre 28. Les uns ont accepté, les autres ont rejeté et Paul a mis à part ceux qui avaient cru aussi dans Actes des Apôtres 19 et les autres sont restés là où ils étaient. Paul a mis à part ceux qui avaient accepté. Dieu sépare, Dieu met à part. Dieu ne va pas toujours comme ça rester à s'occuper de ceux qui s'opposent à ce qu'il a dit et qui ne croient pas ce qu'il dit. Dieu va lever sa main et va dire: Je suis désolé, mais jusqu'à aujourd'hui encore, vous avez fait que contredire. Vous avez endurci vos cœurs et vous n'avez pas voulu écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est ainsi que vous n'avez pas pu entrer dans le repos de Dieu, comme c'est écrit dans Hébreux. Ensuite, il est écrit: il y a un repos présent pour le peuple de Dieu. Oh, nous pourrions continuer à lire encore beaucoup de choses, cette parole merveilleuse, et nous pourrions continuer à la prêcher. Dieu nous bénisse tous et soit avec nous tous. Amen. Nous voulons nous lever. Chantez: tu es digne, tu es digne.
Heute werden wir auch darum
Aujourd'hui, nous allons aussi prier pour tous ceux qui sont là pour la première fois, pour qu'ils puissent trouver la grâce devant Dieu et recevoir la parole dans la foi, la recevoir pour qu'elle puisse leur être révélée par l'Esprit qui conduit dans toute la vérité. S'il vous plaît, même s'il y a plusieurs choses qui sont nouvelles pour vous, croyez la parole de Dieu. N'écoutez pas ceux qui critiquent et qui parlent mal, des autres de la parole de Dieu et qui blasphèment la parole qui est précieuse pour nous et qui parle mal. Ne prêtez pas vos oreilles à tout cela. Seulement quand Dieu peut parler avec un homme qui s'humilie devant lui, qui ne veut pas savoir mieux les choses, qui ne s'oppose pas, mais qui se soumet sous la main puissante de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, puis-je demander encore une réponse de vous, nous tous qui sommes ici aujourd'hui rassemblés, et tous de la Finlande jusqu'à Palermo, de Bucarest jusqu'aux extrémités de la terre, nous tous qui sommes ici aujourd'hui rassemblés et avec tous ceux qui sont liés avec nous, aussi avec nos frères et nos sœurs à Denver, Colorado et partout en Afrique, à Montréal, partout sur la terre, à Oshkosh et partout où ils sont rassemblés, nous sommes tous prêts. Êtes-nous tous prêts? Sommes-nous tous prêts à 100%, à nous mettre du côté du Seigneur et à accepter toute sa parole, à porter l'opprobre et à marcher sur le chemin étroit, à porter l'opprobre du Christ, à supporter l'opposition, à supporter la calomnie, à supporter tout ce qui est dit de mal sur nous, à supporter tout en regardant au prix de joie qui nous est réservé. Dites oui à cela. Amen. Amen. Et encore une fois, Amen. Et maintenant, je voudrais que nous soyons sincères devant le Seigneur. Si nous avons des frères et des sœurs qui peut-être ont encore des difficultés avec un enseignement ou un autre enseignement, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas en une seule fois, en un seul jour, que vous pourrez comprendre tout. Et ce n'est pas dans une seule prédication que tout vous sera révélé. Dieu réserve toujours encore quelque chose pour la prochaine prédication et nous conduit toujours plus profondément dans sa parole et dans sa volonté. Mais si vous pouvez croire que vous avez été déterminé à voir la gloire de Dieu et à appartenir au troupeau des vainqueurs et à voir l'achèvement, dites Amen, à voir la perfection de l'Église, ça nous l'acceptons. Maintenant, je demanderai au frère Schmitt qu'il puisse encore venir et prier avec nous. Et tous, nous allons apporter nos requêtes au Seigneur et croire qu'il nous a déjà exaucé. Il nous a déjà répondu. Alléluia. Ô grand Dieu, nous te remercions en Christ Jésus notre Seigneur, dans lequel tu t'es révélé. Tu as placé ton peuple en tant que celui qui est, qui était et qui vient. Nous te remercions, notre Sauveur et Seigneur, de ce que en toi et par toi nous avons le salut.
das du in die Welt gebracht hast, oh Gott.
Que tu as apporté dans le monde. Nous te remercions de ce que, Seigneur, tu as supporté toute opposition. Mais tu nous as aussi supporté en tant que des personnes qui étaient perdues. Oh Seigneur, tu as donné ta vie. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu as fait, pour ton sang, de ce que dans ton sang et par ton sang, nous sommes sanctifiés et purifiés, ô Seigneur, et que nous pouvons nous tenir devant toi, comme blanc, comme la neige, en tant que des personnes qui n'ont jamais péché, comme des personnes qui n'ont jamais péché, mais toi seul, tu es celui qui n'a jamais péché et qui est juste, tu as tout accepté sur toi. Accorde-nous ta grâce. Demeure avec nous, Seigneur. Bénis tout ton peuple dans l'adoration. Sur toute la terre, dans tous les peuples, les langues et les nations. Comme déjà dit, de l'Afrique, de partout où ton peuple, jusqu'à dans le nord et partout, dans toutes les extrémités de la terre, tu les connais tous. Nous te demandons ta bénédiction. Bénis encore partout aujourd'hui tous ceux qui vont faire l'alliance d'une bonne conscience avec toi, confirme ta parole et qui font cette alliance avec toi pour confirmer ta mort et ta résurrection. Accorde ta grâce pour que nous puissions aussi marcher avec toi et être avec toi quand tu reviendras. Seigneur Jésus, conduis-nous et dirige-nous pour que nous ne tombons pas dans la tentation. Car tu as vaincu la tentation que ton nom s'est loué. Seigneur Jésus, amen. Chantons ce cœur. Toi, l'agneau de Dieu, que ton nom soit glorifié, ton sacrifice est accompli.
Et encore, je l'aime, je l'aime. Et que tout le peuple dise amen. Amen.